Salut, je m'appelle Noémie et je passe ma vie à me demander ce que je vais bien pouvoir en faire de ma vie. J'ai 27 ans et 4 boulots le cul vissé sur une chaise de bureau. Je crois qu'il est temps pour moi d'utiliser mes manœuvres. Élever des biquettes, tailler des cailloux, lever des charpentes. Avec Estuf, je pars à la rencontre de ceux qui plantent, qui bâtissent, qui élèvent et qui scient. De ceux qui collaborent avec la terre et la matière et qui chaque matin façonnent notre monde de leur main. On discute de leur quotidien sans formalité. On dégomme les clichés et les idéalisations qui entachent leur univers. On parle du positif et du négatif pour connaître leur vraie réalité. Et enfin, on décrypte leur vision de leur métier et surtout son avenir face aux bulles socio-climatiques qui nous attendent.
Le tout sans se prendre trop au sérieux, évidemment.
Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous faire part d'une superbe initiative qui s'est lancée pour défi de nous sensibiliser à l'importance de prendre soin de notre biodiversité. Si vous sentez que votre entreprise, ou celle dans laquelle vous travaillez, a grand besoin de considérer l'importance de la biodiversité dans son secteur d'activité, l'association Cerver réalise un travail de ouf qui vous épaulera dans cette initiative. Le Cerver, le roi des forêts, hein, pas la coque en plastique des tomates, organise des ateliers, des formations et des événements directement en forêt pour nous immerger au cœur de la biodiversité afin d'en comprendre les enjeux futurs. En plus, ils ambitionnent de lancer une foncière forestière citoyenne pour mieux gérer nos belles forêts françaises. Pour les contacter, ça se passe sur leur site web cerver.org, tout attaché en minuscules, ou sur Instagram à cerver.forêt. N'attendez pas et foncez faire des câlins aux arbres! Salut Joseph!
Salut!
Tu vas bien?
Un peu fatigué, ouais. Je reviens du Brésil, mais ça va, sinon.
Bien décalqué avec le décalage horaire. Je suis très heureuse de t'accueillir. Bienvenue sur Questuf.
Ben, merci pour ton invitation.
Ouais, plaisir. Joseph, t'es berger. Et il me paraît aussi important de préciser, tu me diras si je me trompe, mais l'aspect un peu communication de ton métier aujourd'hui, qui, j'ai l'impression, te prend du temps. Peut-être que c'est intégré dans ta profession à part entière. Mais c'est une des choses aussi qui fait que je suis ravie de t'avoir aujourd'hui, c'est la ferveur avec laquelle tu partages autour de la profession de berger, et puis là, un peu la petite couleur militante, peut-être, de ce partage. Je sais pas si j'ai le droit de le dire.
Bah, je sais pas, à partir du moment où on parle de ces pratiques, il y a toujours une forme de militantisme, je pense. En tout cas, je fais les choses avec passion, donc si la passion est une forme de militantisme, ça me va très très bien.
Très bien. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours? Est-ce qu'il t'a... Ce qui t'a amené à parcourir les sentiers avec ton troupeau, genre ta rencontre avec ce métier-là?
Oh, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui est plutôt qui s'enracine dans l'histoire familiale avec comme beaucoup de gens à l'époque, hein, des grands-parents paysans, mais plutôt agriculture vivrière, quoi, où il y avait un peu de tout. J'ai grandi en partie à certaines vacances dans cette ferme. Et puis,
T'étais dans quelle région?
Alors, j'ai un parcours assez atypique, en fait. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est originaire de la Sarthe. Mes parents sont partis des zones rurales pour trouver du travail. Donc, ils ont trouvé du travail en Normandie, où je suis né. Et puis, quand j'étais adolescent, j'ai pas mal parcouru le Pays Basque et je me suis enraciné personnellement là-bas. J'y ai trouvé une forme d'attache personnelle, quoi. C'est plutôt une attache de cœur et puis un réceptacle pour moi dans un endroit où tout était combiné, quoi, c'est-à-dire les grands espaces, l'océan, la montagne, une culture forte et puis beaucoup d'agriculture, énormément. Donc j'ai grandi un peu là-dedans et puis comme dans toute famille où on avait envie que l'ascenseur social passe d'une génération à une autre, j'ai fait des études de marketing et de communication, plutôt orientées dans les sports extrêmes, puisque c'était une de mes passions. Ça l'est toujours, mais je la pratique différemment aujourd'hui. Donc j'ai un peu parcouru le monde du snowboard, le monde du surf. Je me suis un peu perdu, je ne sais pas comment, dans le monde institutionnel, où j'y suis entré par la porte du sport aussi, mais c'était hyper intéressant avec des missions passionnantes de services publics.
Donc c'était sur des institutions
Ouais, toujours au Pays Basque, donc le département et puis la ville de Biarritz, puisque j'y ai travaillé en tant que responsable de la communication au niveau de l'office de tourisme. Donc voilà, et puis à un moment ça te rattrape, quoi, ce truc qui traîne derrière toi, qui te dit à un moment donné tu veux repartir à la campagne, tu veux retourner avec des animaux, etc. Donc
Parce que du coup, Biarritz, c'est pas assez campagne. C'est genre, c'est quand même une grosse ville.
c'est pas une grosse ville, hein. C'est une toute petite ville. Il y a 20 000 habitants, dont 10 000 résidents permanents, quoi. J'avais une vie de rêve, hein. Le matin, j'allais surfer à 5 heures, je mettais le costard, j'allais travailler, je l'enlevais le costard, j'allais surfer à midi, je remettais le costard, je l'enlevais le soir, je retournais surfer. C'était une super vie avec aussi la partie touristique où tu vas découvrir plein de choses localement, etc. Mais c'est vrai que ça n'arrivait pas à me nourrir suffisamment. Et je me suis pas mal investi après dans des engagements plutôt, pour le coup, très militants cette fois, dans le sens politique du terme. Et puis je crois que c'était l'aboutissement de la forme de ras-le-bol où, avant de vouloir que les choses changent, il faut commencer par se changer soi-même. Et j'ai opéré un virage à 360 degrés, quoi. C'est retour aux sources. J'ai eu la chance au Pays Basque d'avoir des amis qui étaient bergers, qui m'ont ouvert les portes, qui m'ont fait découvrir plein de choses. Et bah, la graine était déjà plantée, ça n'a fait que la faire germer, quoi.
Donc c'est par des amis que tu as rencontré ce métier-là, parce que c'est vrai que dans le fond, dans tes racines, toi, on aurait pu imaginer bien d'autres types de carrières dans l'agriculture, tu vois, de maraîchage, de l'élevage, il y a tellement plein de choses dans l'agriculture. Berger, c'est les potes qui...
On va dire que sur la partie petit ruminant, c'est clairement les grands-parents. Puisque quand j'étais gamin, je m'amusais à courir après les brebis qui étaient dans le jardin. Donc ça, c'était vraiment parce que c'était à ma portée. Et les vaches m'effrayaient beaucoup. Mauvaise expérience. Mauvaise expérience où en allant chercher du bois, gamin à 50, à 15 vaches qui courent vers toi, où tu as l'impression de te faire charger, ou c'était peut-être pas le cas, mais j'ai pas apprécié la situation. Et puis... Donc ça, c'est le point de départ. Et puis après, le deuxième point d'accroche, c'est clairement mon besoin vital d'évoluer dans des grands espaces. Donc c'est soit la montagne, soit l'océan, soit l'un, soit l'autre. Si j'ai pas l'un ou l'autre, c'est difficile pour moi de vivre au quotidien. Et puis ben, du coup, le troisième point qui a mixé le tout, c'est le Pays Basque avec mes amis qui ont et des brebis, qui font des produits de qualité incroyable et qui sont dans des espaces naturels immenses. Voilà, donc en fait, c'est un concentré, quoi.
Donc ça t'a un peu vendu du rêve quand même aussi.
C'est pas tant du rêve, c'est là où j'étais bien,
Ouais.
où tout était calme pour moi.
C'est cool parce que du coup, c'est comme si, pour beaucoup de personnes qui font ce virage à 90, il y en a de plus en plus, ils font ce virage à 90 sans savoir ce qui les attend au bout du virage, tu vois?
Moi, je le savais parce que finalement, en fait, ça faisait plusieurs années sans trop le savoir, je préparais ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau qui fonctionne en roue libre et puis qui sait ce vers quoi il va toujours aller. Je suis quelqu'un de très intuitif et du coup, je laisse cette partie-là sans trop y mettre mon grain de sel. Parce qu'en fait, pendant ces années-là, que ce soit quand je travaillais au département à la communication, j'ai déjà des amis paysans à évoluer sur Internet parce que c'était les débuts d'Internet, des réseaux sociaux et tout ça. C'était ma spécialité, hein, le web et le e-commerce. Et donc, on a commencé à mettre en place un site e-commerce pour un ami qui vendait de la viande biologique en circuit court. Donc, en fait, ça a toujours été là, quoi. C'est juste à un moment, ça a pris la place, quoi.
Berger, alors tu me dis moi si je me trompe, est-ce que c'est... En fait, ça semble être, de ma perspective, une profession qui s'est un peu figée dans le temps, dans les esprits des gens. Bon, déjà parce que c'est un métier qui est multimillénaire, et puis aussi parce que j'ai l'impression que la version qui est véhiculée par les musées du pastoralisme ou même toutes les institutions publiques communiquant dessus, elle est assez ancienne, traditionnelle. Pour autant, je me doute qu'aujourd'hui, être berger en 2024, c'est pas du tout la même qu'être berger en 1970, voire avant. C'est
Est-ce que tu peux un peu m'expliquer en quoi ça consiste, du coup, le métier de berger aujourd'hui, concrètement, sans les affres du musée local?
Alors, je dirais plus que métier, c'est une fonction sociale et sociétale, auparavant, hein, de toute façon. C'est vrai que c'est ce qui fait la différence entre le folklore et une culture ancrée, quoi, toujours vivante. Hein. Ouais. Le folklore, c'est ce qui vit plus, donc on en fait un espèce de musée. C'est une façon de vivre et un métier qui a traversé les époques, clairement. Je pense que c'est le plus vieux métier du monde. On retrouve vraiment des traces de ces pratiques dans les Pyrénées, notamment très très loin derrière. Et c'est pour autant un métier qui a énormément évolué. C'est une pratique qui est devenue un métier surtout. Avant, c'était plutôt subi par un des enfants de la famille parce que bah, globalement, ça faisait une bouche en moins à nourrir hein, en bas. Parce qu'on était dans ces logiques-là, c'est-à-dire que pas assez de nourriture en bas et pour la famille et pour les troupeaux. Donc, une partie des troupeaux partait à la montagne pour ce qui est du pastoralisme montagnard. Mais on oublie souvent le pastoralisme méditerranéen, qui était plutôt un pastoralisme très nomade, on va dire, avec des herbaciers donc, qui partaient de la plaine de la Croix et qui remontaient vers les Alpes du Sud. C'est un métier qui a énormément changé parce que il y a encore moins d'un siècle, il n'y avait personne en montagne. Il n'y avait personne, si ce n'est quelques alpinistes. Voilà. Donc, c'était clairement pas un milieu dans lequel les gens évoluaient. Ça a commencé à être peuplé avec les premières stations de montagne hivernales. Mais bon, l'hiver, on n'y était pas. Et puis, ça s'est développé avec les activités de pleine nature. Hein. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans des zones à forte tension du fait du multi-usage. Qui peut en être fait. Donc c'est un métier qui est utile et nécessaire aujourd'hui et qui subit d'énormes contraintes. Et puis il y a deux facettes de ce métier, c'est-à-dire qu'on a, on a des bergers éleveurs donc, qui sont propriétaires des troupeaux. Et puis avec la mécanisation et l'agrandissement des fermes, donc ces bergers éleveurs ont de plus en plus de boulot sur les fermes en bas pour produire le fourrage pour l'hiver. Donc, ils délèguent la gestion du troupeau l'été à des bergers salariés comme moi. Donc, on va de contrat en contrat.
Oui. Du coup, l'activité du berger, c'est de prendre soin d'un troupeau pendant une période... d'ailleurs, un troupeau de toute taille. J'imagine que la taille n'est pas forcément fixée. Et sur une période établie.
La taille des troupeaux n'est pas fixée, elle est dépendante de l'espace dans lequel on évolue, parce qu'elle est, elle est rationalisée par rapport à la quantité de fourrage disponible, hein, naturellement. Donc ça, c'est un premier facteur clé. Ensuite, c'est rationalisé en fonction de la période, de la saison, entre l'hiver, l'été, le printemps. Et puis donc on prend un troupeau plus ou moins grand en fonction de ses capacités, de ses envies, de ce qu'on a envie de faire et d'où on a envie d'évoluer en tant que berger salarié. C'est une liberté qu'on a de pouvoir choisir. Donc on est souvent l'été quand même entre 600 et jusqu'à 2000-2200 brebis. Quoi.
Pour toi tout seul ?
Pour toi tout seul, on est de moins en moins seul du fait de la prédation, donc on a de plus en plus recours à des aides-bergers qui viennent nous soulager sur une partie du travail, et on est de plus en plus de bergers parce que on s'aperçoit que techniquement on a besoin de gens qui savent conduire et mener un troupeau dans ces espaces quoi. Et d'avoir besoin de se relayer parce que c'est extrêmement fatigant.
Et donc l'objectif, c'est d'aller emmener les bêtes paître en pâture, et ça pendant une période saisonnière, et de les ramener à la fin de la saison.
C'est ça, on récupère le troupeau en début de saison, au mois de juin, début du mois de juin la plupart du temps. Donc soit par transhumance à pied pour certains endroits qui se raréfient, non pas parce que les éleveurs veulent plus ou comme ça, mais c'est que ça devient très très difficile d'un point de vue sanitaire de passer d'un département à un autre et d'avoir les autorisations des villes pour nous de nous laisser traverser les villes. Il faut quand même savoir qu'il y a des villes qui interdisent les troupeaux de brebis dans leur enceinte. Quoi.
Ah oui, pour des questions de circulation.
Pour des questions de circulation, de propreté, d'un tas de règles qui ne concernent pas les pasteurs.
D'accord. Donc pas de transhumance et brebis dans le camion.
Il y a de la transhumance, mais c'est des petites transhumances souvent. Après, il y a quelques grandes transhumances. Sinon, c'est des brebis effectivement qui partent en camion et qui, en 6 heures de route, arrivent au pied de la montagne.
Ouais. Donc ça, déjà, ça vient aussi bien changer la profession.
Ça change beaucoup de choses, ouais, effectivement. Et donc, on doit prendre soin de la montagne, puisqu'on gère l'espace par le pâturage, et l'état physiologique du troupeau, qui peut être différent, en tout cas les attentes peuvent être différentes en fonction du moment physiologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des brebis qui sont pleines et qui vont mettre bas à la descente de l'alpage au mois d'octobre. Donc on doit gérer l'état d'engraissement des brebis pour qu'à la redescente elles puissent mettre bas et elles aient les réserves nécessaires pour avoir du lait pour les agneaux. Donc ça c'est une forme d'un troupeau. On peut avoir des troupeaux avec les agneaux, on appelle ça des tardons, en fait, ce sont des agneaux qui sont nés au printemps et qui vont être engraissés et finis à l'herbe à la montagne. Donc là, on n'a pas les mêmes besoins, c'est-à-dire que c'est des brebis qui ont besoin de se requinquer, quoi. Voilà. Donc on engraisse, qui peuvent passer des journées entières à manger. Et puis on peut avoir des chèvres, on peut avoir des troupeaux laitiers, des troupeaux viande, enfin voilà, c'est vraiment...
Les chèvres, ça doit être un truc, ça gambade tellement de partout, ça grimpe tellement.
On dit que la chèvre aime être là où elle n'est pas, ça donne une idée.
Tu sais que c'est un métier qui est très prisé par les jeunes parisiens. Ils sont en force dans les recrutements des élèves dans les écoles, dont la fameuse école du Merle, je crois. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est... Du coup, une des grandes écoles de formation au métier de berger. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet afflux de personnes très urbaines, à la base, vers des métiers extrêmement sauvages, au final ?
Il y a du positif et du négatif. Du positif dans le sens où c'est des métiers où on a besoin d'avoir de nouvelles personnes, de nouvelles compétences. Et il faut qu'on, voilà, il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui reviennent à ces métiers-là parce qu'ils ont du sens. Du sens d'un point de vue alimentaire, du sens d'un point de vue gestion de l'environnement, du sens d'un point de vue élevage, et surtout élevage. Et puis, si ça peut avoir du sens sur nos valeurs personnelles, super, quoi. On parlait des images véhiculées auparavant par ce métier, ou en tout cas les espèces d'images d'Épinal. Hein. Et moi, j'y étais confronté par l'accueil de stagiaires, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont une image très poétique. Je crois que s'il y a bien des métiers qui véhiculent le plus de poésie, c'est bien celui-là. Le gardeur de troupeaux de Pessoa. C'est un poème magnifique, mais à côté de ça, c'est un métier qui est méconnu. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette page Facebook et Instagram Carnet de Berger. C'était pour raconter en fait le quotidien, quoi, qui était bien loin des images d'Épinal qu'on pouvait se faire. Donc effectivement, de toute façon, il faut que ces écoles puissent recruter. Le principal écueil, c'est... la confrontation du réel par rapport à ce qu'on pouvait s'en faire comme image, quoi. C'est clairement une fracture. Et sans parler de la culture pastorale, la culture rurale, qui est quand même aux antipodes des cultures urbaines, parce que vraiment, quand on côtoie... J'ai la chance de côtoyer ces deux mondes et de m'en être jamais séparé. Donc, de comprendre les deux mondes, même s'il y en a un que je comprends de moins en moins, il y a vraiment un schisme, quoi, entre les deux. Et je crois que c'est une des principales difficultés de compréhension dans ce métier, quoi, dans la relation qu'on peut avoir avec nos employeurs.
Ça va m'amener sur le premier jeu de ce podcast que j'appelle le Ask It Quiz. L'intention derrière ce jeu-là, c'est de venir établir la vérité, ou du moins un peu la mettre à jour, sur un métier. L'idée, c'est que je te présente des idées reçues, que tu me dises ce qu'il en est vraiment. Et après, l'idée, c'est de le partager massivement à tous ceux qui ont envie de faire cette profession, pour éviter justement des échecs de communication ou des idéalisations qui peuvent générer des chutes parfois très vertigineuses quand on arrive dans un nouveau métier, qu'on ait 18 ans ou qu'on en ait 40 d'ailleurs. La première que j'ai trouvée, c'est cet aspect solitaire du métier de berger, qu'on s'imagine comme un paradis. En fait, tu travailles dans le calme, tu as la paix. Et ouais, je serais intéressée de voir si c'est vraiment quelque chose qui est si sexy que ça ou pas.
Mon premier jour de garde, donc quand j'ai appris ce métier, c'était avec Jean-Luc Pitra, un berger qui est très très connu dans le monde du pastoralisme pour un tas de raisons. Et ça faisait une cinquantaine d'années qu'il gardait. Donc je commence ma journée à 4h du matin, on se lève, truc complètement... Tu sais plus où t'habites, tu sais plus ce que tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas comment la journée va se passer. Enfin voilà, tu suis. Et puis bon, on suit les, enfin je suis. Les brebis partent. Puis à un moment tout s'arrête. Les brebis, il fait chaud, elles s'arrêtent, etc. Et puis et je dis mais combien de temps on va rester ici, parce qu'on était posé. Il me dit ouh ça, et c'est les brebis qui décident. Bon. Pas plus de réponses quoi à ma question initiale qui était combien de temps on va rester ici. Question extrêmement sociale quoi, comment j'organise mon temps. Et il se trouve que on y a passé 8 ou 9 heures je crois au même endroit. Et puis en repartant il me dit avec son ton espiègle que j'arriverai jamais à reproduire. Mais il me dit, tu vois, ça, on pense toujours que le métier de berger, c'est dur parce que tu marches. Mais en fait, le plus dur, c'est d'attendre pendant 9 heures au même endroit que les brebis décident à repartir parce qu'il fait moins chaud. Donc, on était deux. On a eu des moments de discussion, des moments où on dormait, des moments où on lisait, des moments où juste on observait le glacier d'Argentière en face. Et puis après, t'es tout seul.
Avec toi-même.
Après, tu es tout seul et tu es tout seul avec toi-même. Et ce moment se répète jour après jour pendant 4 mois. Alors, ça dégraisse avec la saison qui avance, donc il fait de moins en moins chaud. Donc, les brebis s'arrêtent de moins en moins, c'est longtemps. Mais voilà, on est tout seul. C'est génial quand on a envie de l'être. C'est plus difficile quand on a des moments épuisants, fatigants, quand on est... On a toujours l'habitude de dire que c'est une saison, une estive, c'est un marathon à l'envers, quoi. C'est-à-dire qu'on commence par le sprint et on finit par la petite course du début. Donc en fait, on arrive au mois d'août où on est vraiment épuisé, on a perdu du poids, on est cuit, parce qu'on fait des journées 5h du matin à 23h, où on gère d'abord le troupeau. Et on est tout seul, donc quand ça va pas, ben, on est aussi tout seul. Donc il fallait puiser les ressources en soi quand ça va pas pour aller mieux, quoi. Et le moral était quelque chose de fantastique quand on est seul, parce qu'il a la capacité de nous clouer au lit et la capacité de nous lever aussi. Ouais.
Oui, et puis il a cette capacité à s'autogérer, quoi. Dans ce genre d'environnement où t'as pas le choix, t'as pas d'autre, on va dire, bouée de sauvetage que toi-même.
On n'a pas le choix. Non. Là, on n'a pas de bouée de sauvetage, et puis bah, c'est-à-dire que quand on monte avec le troupeau et on sait qu'à partir de ce jour-là, la priorité, ça va être les animaux d'abord, donc le troupeau, les brebis, ensuite les chiens, et après nous derrière, quoi. Donc nous, on passe vraiment en dernier. Donc sur des journées assez courtes, c'est pas évident. Et quand il se met à pleuvoir pendant des jours et des jours, qu'on a du brouillard, des orages, des galères, parce qu'on perd ça peut arriver qu'on perde un lot de brebis, des attaques de loups. Le fait d'être seul, c'est vraiment compliqué, quoi. Ça peut vite devenir un cauchemar si on n'est pas solide dans sa tête. Donc c'est chouette quand il fait beau et qu'on est allongé sur une touffe d'herbe, mais c'est quand même pas la majorité de notre temps.
Est-ce que c'est le kiff de bosser en plein air dans des lieux naturels ?
C'est l'ultra kiff. C'est l'ultra kiff de pouvoir évoluer dans un espace qui est complètement hostile au moment de notre arrivée et qui devient un membre de sa famille quand on en part. Parce qu'en fait, on a passé 4 mois à comprendre son fonctionnement naturel, que ce soit la faune, la flore, la météo. Enfin, voilà, on a l'impression de prendre racine dans cet endroit et d'en faire partie. Donc, c'est l'ultra kiff. Et en tout cas, moi, quand j'y monte, à chaque fois, c'est mon objectif. C'est de partir en me disant que c'était un membre de ma famille que j'ai découvert. Donc, c'est
et
assez
la météo
chouette,
est pas un sujet.
Il fait le temps qu'il fait.
C'est un truc d'acceptation de quelles que soient les conditions.
De toute façon, si tu n'acceptes pas les 15 heures sous le parapluie, le froid, les brebis qui vont pas bien, mais toi qui vas pas bien non plus, c'est vite un enfer, quoi. Et tu sais que le lendemain, ça recommence, et le surlendemain peut-être aussi. Donc, c'est un long travail sur soi d'acceptation, de rester dans le présent et de pas projeter. C'est dur.
T'as des phrases que tu te dis dans ta tête à ce moment-là ?
Il fait le temps qu'il fait. J'essaye de répéter ça inlassablement. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien que ça se passe comme il a envie que ça se passe.
Frustrant.
Et donc,
ouais.
Parfois, c'est perturbant. Ouais, c'est frustrant, mais c'est une forme de... Bon, c'est une forme de psychothérapie, hein. Tu travailles sur toi, quoi.
D'autothérapie, ouais.
D'autothérapie, ouais, tout à fait.
Il y a beaucoup de personnes qui idéalisent le travail avec les animaux, dans le sens où, tu sais, quand tu n'as jamais travaillé avec les animaux, ta seule connaissance des animaux hors des animaux qui vivent avec toi, donc le chien, le chat, etc., c'est les visites que tu peux avoir faites sur un aspect touristique, c'est voilà, le salon de l'agriculture pour les plus parisiens d'entre nous, tu vois, genre... Est-ce que c'est quelque chose qui a une couleur particulière ?
Je pense qu'il y a beaucoup d'anthropomorphisation de la vision de l'animal depuis quelques années. C'est mot contre triple, il pourrait faire mot quintuple suicide, parce que tant il biaise la vision qu'on peut avoir des animaux, notamment des animaux domestiques et des animaux d'élevage. On parle trop souvent des agneaux ou des chevreaux comme des bébés. Bah, ce n'est pas des bébés, quoi, en fait. Ça a un nom, ça s'appelle agneau, chevreau, veau.
Ouais, c'est clair.
Et je pense que la maîtrise de la langue est hyper importante, quoi. Chaque mot a un sens et son usage est hyper pertinent. Donc, quand on commence à appeler les animaux des bébés, moi, j'ai un peu du mal avec ça. Mais ça, c'est ma vision personnelle. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir grandi dans une ferme où... le gentil petit lapin que tu caressais juste avant va finir dans ton assiette et tu vas aider ton grand-père à ce qu'il arrive dans ton assiette. Mais il y a une forme de sacralisation du vivant aussi à travers tout ça. Travailler avec des animaux, c'est ingrat.
C'est ingrat
parce que tu donnes tout et tu t'attends à avoir parfois beaucoup de retours et tu as beaucoup d'ingratitude par moment. Mais non, je crois que c'est... On parlait d'autothérapie juste avant, mais c'est une manière aussi d'avoir un miroir en contre-plongée sur soi-même, quoi. Parce que ça vient ouvrir des portes dans sa tête insoupçonnées, insoupçonnables. Et puis, travailler avec un immense troupeau, quoi. C'est-à-dire que quand t'as 1500 têtes... bon, ça paraît gros comme ça, mais c'est petit, hein, 1500 têtes. Tu développes une forme de relationnel et puis tu es dans un espace qui est complètement ouvert. Et ton objectif à toi, en tant que berger, c'est d'être en vacances pendant 4 mois. Donc, c'est que le troupeau soit en vacances, mais toi aussi. Donc, en fait, la domestication et l'apprivoisement prend tout son sens. Et là où est l'essence de notre métier, et c'est toute la différence qu'on peut avoir avec les éleveurs, c'est que 90% de notre boulot, c'est d'établir une relation de confiance entre cet immense troupeau et nous tout seuls. Et quand on a réussi, c'est-à-dire que quand les bêtes réagissent à la voix, qu'elles sont plus effrayées, qu'elles nous laissent avancer au milieu d'elles, les manipuler sans trop de difficultés, on a tout gagné, quoi. On a tout gagné et puis c'est une immense récompense personnelle, quoi.
Ouais.
Mais c'est ingrat parce que les bêtes peuvent nous blesser, elles nous blessent, hein, clairement. Elles nous blessent quand on veut les soigner. c'est pas toujours facile. Et puis, faut dire ce qu'il est, quoi. Je veux dire, ça reste des animaux. On vit au milieu des animaux, des odeurs. Ouais. Sentir le berger, c'est sentir la brebis, quoi. Donc, on s'en rend pas forcément compte. Ça. Même si on se lave, hein. Heureusement, on a des douches aujourd'hui.
Oui. Elles se blessent entre elles aussi, non ?
Les animaux peuvent se blesser entre eux, tout à fait.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas dirigé vers toi, humain, parce qu'elles sont effrayées. C'est parce que si elles sont en confiance avec toi et que cette petite peur disparaît.
Quand on taille le pied d'une brebis parce que le pied est un peu échauffé au niveau des onglons, qu'elle boite et que du coup il faut dégager l'onglon correctement, ça reste une partie douloureuse et que quand tu l'as saisie, la brebis, elle sait qu'elle va avoir un moment pas forcément évident et qu'en fonction de ses expériences passées avec ou des bergers ou des éleveurs sur cette façon de faire, ça peut être une réaction plus ou moins vive. Et un pied de brebis, enfin moi j'ai déjà pris en pleine tête, c'est KO direct. Hein. Ça a beau être petit comme ça, mignon, la force que ça a, c'est impressionnant. Ouais.
Ok. T'as les mêmes troupeaux tous les ans ou pas forcément ?
Alors moi je change, j'ai cette bougeotte, donc j'ai pas mal évolué. J'ai pas mal évolué au fur et à mesure des saisons, notamment l'été. Au printemps, je suis retourné beaucoup de fois au même endroit, sur la montagne de Lure. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement.
Ça doit être un peu particulier parce que tu as des brebis où je ne sais pas si elles ont une mémoire. Y a ce truc déjà de si tu changes tous les ans, reconstruire à chaque fois ce nouveau lien. Puis après, tu as celle que tu revois. Et est-ce que tu sens qu'elles se souviennent de toi ou c'est pareil, elles t'oublient ?
En fait, elles t'oublient parce que elles t'oublient. Alors, celle que tu revois, elles t'oublient, mais ça revient plus vite. C'est-à-dire qu'elles se disent « Ah oui, je me souviens de ce gars-là avec ses chiens. S'il fait ça, c'est pas cool. » Donc, on va arrêter
ça
de...
Ça me barre.
Ouais, le type là avec son béret un peu bizarre là, et ses deux chiens caramel là. Ils n'ont pas l'air très tendres. Du coup, elles se souviennent effectivement d'une année sur l'autre. Non, elles ont une mémoire des lieux qui est assez phénoménale. C'est-à-dire qu'elles remontent tous les ans au même endroit ou même quand tu les changes, elles connaissent d'une année sur l'autre. Elles se rappellent les bons coups à faire, quoi. Les mauvais pour toi. Mais elles se rappellent des bons coups, du chemin, elles se rappellent de tout. Elles ont une mémoire ancrée et même avec les bergers... On a nos petits trucs à nous, nos appels, qui font qu'au bout d'un moment, ça revient. Elle se dit « Ah oui, c'est vrai, cet endroit-là est associé à cette personne. »
Génial.
Et puis, surtout, quand on reprend un nouveau troupeau, souvent, ce qui est intéressant, c'est de voir le fonctionnement qu'elle pouvait avoir avec le berger d'avant, qui était forcément différent du tien. Donc, tu t'aperçois des modes de garde de chacun, quoi.
Oui, donc, en fait, tu peux te faire marcher dessus assez facilement, et du coup, si tu te fais marcher dessus, tu ouvres la voie à ce que tous les bergers qui viennent après toi se fassent marcher dessus.
Pas forcément, on peut pas dire se faire marcher dessus, mais chacun a sa manière de garder et ses méthodes, et c'est chouette. Je veux dire, tout est complémentaire, on apprend toujours les uns des autres. Mais entre un jeune berger qui a gardé le troupeau très serré tout le temps parce qu'il a toujours peur de les perdre, et un berger qui a plus d'expérience, qui va vraiment laisser le troupeau s'étaler, qui lui va avoir plus confiance, voilà. Par exemple, c'est deux modes de garde extrêmement différents, quoi.
En tant que berger, est-ce que tu tisses du lien avec les terroirs dans lesquels tu travailles, les éleveurs, les gardiens de refuge?
Terriblement, en fait, on n'est pas si seul que ça. Au contraire, on est inscrit dans une logique territoriale. Les estives sont gérées de toute façon de façon collective. Il y a toujours du public, du privé, c'est toujours mélangé. Donc en fait, on a les maires de communes qui sont souvent impliqués, on a les filières fromagères pour la partie fromagère, les filières viande qui sont aussi impliquées dedans. On a des associations qui font le lien entre les éleveurs et les pouvoirs publics pour favoriser et faciliter le pastoralisme. On a le tourisme, on a des parcs nationaux des fois, on a, enfin voilà, donc on est vraiment au milieu d'un écosystème qu'on aimerait souvent être, voir loin de nous pour être tranquille, mais on en fait partie et on doit dealer avec quoi en permanence.
Ouais. Parce que c'est donc des relations qui sont pas forcément éleveurs. Toujours plaisantes.
On n'a pas toujours les mêmes intérêts, donc c'est on est souvent en lieu et place de médiation, que ce soit pour des usages touristiques des espaces, que ce soit vélo, randonnée, parapente, enfin on voit beaucoup de choses. La chasse aussi, parce qu'on oublie souvent, mais il y a de la chasse en montagne hein, à partir de septembre-octobre. Et puis l'usage pastoral de la montagne où effectivement quand on a un groupement pastoral avec 1500 brebis, 5-6 éleveurs, on deal en permanence avec les éleveurs parce que ils nous font confiance, mais on a leur compte en banque entre nos mains quoi. C'est-à-dire que eux c'est toute leur richesse et que du coup moi je pars du principe que communiquer, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais ça fait partie de notre boulot avec notre employeur. Et que expliquer les raisons pour lesquelles on avance et on fonctionne dans la montagne, c'est important. Et écouter aussi leur retour est aussi important. C'est vraiment un boulot main dans la main, quoi.
Okay. Tu sais que le mot cheptel est un des mots qui a inspiré le mot capital.
Ouais. Donc, tu vois, ça capital. Prend, tout à sens. Fait. C'était les gros troupeaux lainiers hein, qui sont arrivés par Napoléon à l'époque où la laine était vraiment se vendait très cher, était c'était une ressource très importante. Donc c'est Napoléon qui a fait venir les mérinos de mémoire, hein, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à Rambouillet pour en faire toute une sélection et développer le capital, le fameux capital.
Et pourtant, les laines mérinos françaises d'aujourd'hui, je crois que ce n'est pas super en termes de valorisation. Non,
on a un souci en France et en Europe, hein, globalement, de valorisation de la laine, mais depuis les années 80, puisqu'on a... On a transférer cette partie de l'industrie en Chine, notamment.
Génial. Donc on a
transféré les machines et les compétences.
Tant qu'on a gardé les brebis, au moins.
On a gardé les brebis, effectivement. Et pourtant, on a une qualité de laine. La mérinos française, européenne, en tout cas, une qualité de laine incroyable. C'est la fibre la plus fine. Et il y a une tentative aujourd'hui de recréer de la filière, une filière laine en France. Donc, c'est à saluer parce que les éleveurs, c'est pas un sous-produit quoi.
Ouais,
c'est un produit clair. Qui est extrêmement important pour l'industrie vestimentaire, pour un tas d'usages aussi en dehors. Quoi.
Tu disais tout à l'heure aussi que c'est un métier dans lequel on se sent utile. Moi, je trouve ça intéressant de se poser la question de l'utilité de son métier dans une société, enfin du moins dans celle dans laquelle tu évolues. Quel est ton impact avec ton activité quotidienne? Pour toi, c'est quoi le rôle des bergers dans la société française, qu'est-ce qu'il apporte à la population?
Le pastoralisme, ça maintient quand même les populations locales dans des espaces extrêmement reculés, déjà. Ouais. Donc ça maintient la vie dans les vallées, hein, parce que sinon, elle aurait disparu depuis bien longtemps et il n'y aurait plus personne. Donc je pense que dans un moment où il y a plus de 60% de la population française qui vit dans les villes, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge d'arrêter la concentration dans les villes parce que concentrer dans les villes, ça veut dire concentrer les besoins dans un même espace. Ce qui veut dire qu'il y a d'énormes réflexions en termes d'approvisionnement de la nourriture. Comment tu fais pour nourrir des gens qui vivent dans des villes aujourd'hui quand la nourriture est produite en dehors? Oui. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que pour moi, le pastoralisme, dans un moment comme le nôtre où on est en plein bouleversement climatique, c'est une rétro-innovation en termes d'élevage. C'est-à-dire que la mobilité ou semi-mobilité des troupeaux va permettre d'aller pâturer des espaces naturels qui ont énormément de ressources et d'entretenir cette ressource. On l'entretient par le pâturage, par la fertilisation, parce que quand les brebis passent, elles déposent aussi des fesses, de l'urine, et ça permet de fertiliser. Et puis ce qu'on oublie souvent, c'est que les transhumances, en tout cas le fait pour les troupeaux de manger des espaces naturels et d'aller à un autre endroit, que ce soit à 10, 20, 100, 150 km, elles disséminent des graines aussi. Donc elles participent au développement de la flore. Donc on a ces corridors, on a besoin de ces corridors on parle souvent des corridors pour les espèces sauvages. pour qu'elles puissent aller d'un biotope à un autre, d'un espace à un autre. Mais c'est exactement la même chose pour les troupeaux transhumants, pastoraux. C'est qu'on a besoin de ces corridors et les routes, les villes viennent empêcher ces corridors au même titre qu'elles empêchent les développements des corridors des espèces sauvages. Et c'est vraiment imbriqué, en fait. C'est-à-dire qu'on évolue, on est à la frontière. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui, je pense, à le concevoir, c'est que les gens vivent dans des villes, dans des zones urbaines, on va dire, et c'est zone urbaine, zone sauvage, zone urbaine, zone sauvage. Il n'y a plus d'intersection entre, voilà, il n'y a plus de corridor. Et nous, on fait encore partie des gardiens de ces phares, voilà, de ces corridors où la nature, enfin l'humain peut évoluer tout en respectant et l'environnement sauvage et un environnement plus anthropisé. Quoi.
Faites le lien, en fait.
On fait le lien, exactement.
C'est beau.
Je crois que c'est le sens de notre métier.
Tu dois y trouver de la philosophie, non ?
Il y a une forme de philosophie à se dire qu'on fait le lien. Il y a une forme de désespoir permanent parce qu'on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile par manque de culture, hein, tout simplement. C'est que on a des générations maintenant qui sont complètement coupées des espaces naturels, quoi. Donc tout devient un environnement sauvage, même le bois qui est à 500 mètres de chez soi. Donc on commence à avoir cette image de rustres qui vivent dans des espaces complètement sauvages, hostiles, alors qu'on est juste à la frontière, quoi. On est dans les zones tampons. Je pense qu'on fait un métier tampon, et tant qu'il existe, on n'aura pas anthropisé toute la planète.
À voir comment ça évolue, c'est vrai qu'on est coupé des... je dis on, parce que je pense que même moi, ma génération... Je ne sais pas quel âge tu as, toi ?
J'ai 39 ans.
39.
Moi, je pense qu'on est encore la génération où... Et on a encore la génération où on avait des grands-parents paysans, quoi.
Ouais. Moi, ma génération, je pense qu'en effet, il commençait à y avoir un sacré fleuve entre le sauvage et nous, quoi. Je pense que ça va pas aller forcément en s'améliorant si on continue aussi tout ce développement technologique dans lequel on est hamstérisé, comme dans une roue. Après, pour autant, j'ai l'impression qu'on est aussi une génération qui va voyager énormément, qui va être hyper connectée à l'international, tu vois, qui va avoir une sorte d'ouverture différente que celle qu'on avait avant. Avant, on était peut-être plus ouvert à la nature, maintenant, on est hyper ouvert à toute une société mondiale, tu vois, genre un truc assez énorme, mais du coup, on s'est enfermé au niveau de la nature, pour laisser peut-être place à ça.
Ouais, je pense. Enfin, il y a deux façons de voir le voyage, quoi. Je pense qu'on peut voyager. Moi, j'ai le sentiment à chaque fois que je pars chaque été de partir en voyage, quoi, parce que tu rencontres des gens de ton pays qui n'ont pas la même culture, clairement, hein, parce que je pense qu'on a une espèce de cocorico permanent qui nous empêche de voir que à 200 km de chez toi, les gens, ils ont des pratiques sociales, des us et coutumes qui sont complètement différents des tiens. Ça, c'est un voyage.
Je
crois qu'en fait... Et qui t'impacte, ouais, parce qu'il te fait grandir. Enfin, c'est une richesse culturelle énorme, en tout cas pour moi. Moi, j'ai du mal à concevoir qu'on soit obligé d'aller à l'autre bout du monde, mais ça, c'est peut-être mon éducation qui a fait ça, hein, qu'on soit obligé d'aller à l'autre bout du monde pour se sentir voyager, tout en méconnaissant son pays, en méconnaissant la région dans laquelle on vit, les gens, la façon dont les gens vivent, leur culture locale, au-delà du folklore, hein, qui est souvent mis en avant pour le tourisme. Et je différencie vraiment tourisme et voyage. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes, quoi. Le touriste passe, il fait des sauts de puce, le voyageur, il s'ancre, il se nourrit, il est curieux, il pose des questions, il essaie de comprendre, et il n'est pas là que 3 jours. Donc c'est une vraie différence, effectivement.
Et s'immerger dans le quotidien des gens à travers des histoires de taf, des petites anecdotes, c'est un moyen super sympa d'éclaircir des zones d'ombre. Du coup, j'essaye de proposer cet espace où il y a des pros comme toi qui viennent fournir un récit transparent, sans paillettes, de leur quotidien dans leur profession. Parce que ça me paraît fondamental d'avoir les bonnes infos sur les responsabilités aussi qu'incombre une profession. Et pour qu'on arrête de les idéaliser ou parfois même les dramatiser. Du coup, considérons que je suis une petite branche et que je me suis accrochée dans la toison d'une de tes bêtes, quelle journée tu me ferais vivre ?
Ça commence très tôt le matin.
Oui,
Ça
c'est vrai
commence
ça.
très tôt le matin. Ça commence généralement au lever du soleil, hein. En tout cas, entre juin et jusqu'au 15 août, on est très très tôt le matin. Souvent, j'ai pour habitude en début de saison de passer du temps au milieu des brebis dans le parc. Donc elles sont à côté de la cabane dans un parc électrifié. Question de regroupement nocturne pour essayer de dealer au mieux avec la prédation qu'il peut y avoir.
Donc là, c'est chez l'éleveur, du coup.
Non, on est dans ma montagne, au pied
Ah,
de ma
donc tu as des
cabane.
parcs électrifiés comme ça
Ouais.
que tu établis?
Que j'établis effectivement en fonction de l'altitude, de la distance qu'il peut y avoir entre le pâturage et la cabane. Bah, on deal avec pas mal de choses par rapport à ça. On regroupe nos brebis hein, pour les surveiller hein, au plus proche de nous, la plupart du temps. Parce que s'il y a des tentatives d'attaque sur le troupeau, bah, on est à côté. Donc parfois, on s'est levé 3 ou 4 fois dans la nuit. Donc je suis avec mon café et je vais voir si mes brebis sont dans le parc et si tout va bien. Et si les chiens de protection qui sont dans le parc aussi vont bien. C'est la première des choses le matin, quoi. Je fais un tour pour voir si tout est calme. C'est une forme aussi pour moi d'apaisement parce que c'est pas des choses très drôles quand ça nous arrive. Et j'ai pour habitude de passer un peu de temps souvent dans le parc, marcher au milieu des brebis, de leur parler. Ça permet aussi de voir quand elles se lèvent. C'est le moment où quand elles se réveillent, on voit s'il y a une boiterie. Ou s'il y a une brebis qui est moins bien, qui peut avoir de la fièvre, ou des choses comme ça. En fait, on passe 90% de notre temps à observer. Et donc là, le soleil, généralement, commence à se lever. Je vérifie que tout va bien. Je termine de boire mon café. Souvent, je fais mon paquetage pour la journée, puisqu'on part pour la journée.
Et tu reviens
Donc,
à la
je
cabane
prends
le soir.
le soir, ouais. Ouais, toujours.
Pas forcément d'itinérance, du coup.
Non, non, non. Dans la montagne, je gère mes quartiers de pâturage. J'ai mon circuit pour ma journée, pour le temps qu'il y aura à pâturer l'herbe qu'il y aura à cet endroit-là, quoi. Et puis après, on bouge. Mais il peut y avoir une, deux, trois cabanes parfois en fonction de l'altitude. Et donc je pars à la journée très tôt le matin parce que c'est les brebis, elles mangent. On m'a toujours appris à ce que le boulot soit fait tôt le matin. C'est là où elles font le mieux. Donc, on part tôt le matin. Je charge mon sac à dos, donc à peu près 20-25 kilos de matériel. Entre la bouffe, le parapluie, parce qu'il y a toujours des orages, les affaires de pluie, la trousse de soins pour les brebis, la trousse de soins pour moi, l'eau pour mes chiens. Donc, on part avec les brebis. Souvent, j'ai décidé d'un endroit, mais je sais qu'en fonction. On observe toujours les brebis le matin, c'est-à-dire que soit elles tirent à gauche, soit elles tirent à droite. Elles ont toujours un biais, quoi. Soit elles vont à gauche, soit elles vont à droite. C'est jamais le même. Et donc, si on veut aller à gauche et que le biais du matin, c'est plutôt la droite, on sait qu'elles vont passer la journée à essayer d'aller à droite. C'est comme ça. Donc, on passe la journée à leur faire croire qu'elles vont à droite, mais en fait, elles vont à gauche.
On devrait faire pareil avec nos politiques.
Ouais, il peut y avoir certaines similitudes, effectivement. On est dans une forme d'espace entre. C'est Foucault, quoi. C'est entre la liberté et la contrainte, quoi. On est clairement là-dedans. On n'arrête pas de dealer avec ça au quotidien. Et donc, si tu es toujours accroché sur le dos de ma brebis, tu pars avec elles commencent à manger tranquillement. Généralement, elles ont besoin de se dégourdir les pieds, quoi. Donc, il y a une bonne heure où ça gambade. Et puis, comme c'est le matin où elles ont assez faim, on essaye d'aller vers des secteurs où l'herbe n'est pas forcément très appétante pour elles. Parce qu'on sait qu'avec la faim, elles vont la manger plus facilement. Et puis, on leur donne des nouveaux quartiers où elles sont jamais allées au fur et à mesure, quoi. On avance doucement pour que l'herbe soit bien mangée. Ni trop, ni pas assez. C'est hyper important. Donc on avance au fur et à mesure. Souvent, vers 9-10 heures, la chaleur les prend. Donc dans le circuit, on sait qu'on passe vers une source d'eau, soit une rivière, soit un point d'eau qui est établi. et dans un endroit où ça va être assez à l'abri, assez frais, aux alentours de 10 heures, pour qu'elles puissent ruminer l'herbe qu'elles ont ingérée le matin. Donc là, généralement, elles passent entre 4h30 et 8 ou 9h à ruminer à l'ombre.
En fonction du gavage du matin, c'est ça ?
En fonction, effectivement, hein, la rumination est fonction de la fibre. Vous digérez pas de la même manière entre une petite salade et un gros McDo. Donc pour les brebis, c'est la même chose. On dit la petite salade et le gros McDo au quotidien. On essaye de faire un mix dans toutes ces herbes pour qu'elles puissent trouver tout ce qu'elles ont besoin et qu'elles aient une bonne rumination et qu'elles prennent de l'état corporel. Et puis bah souvent on passe, c'est là où on récupère de la petite nuit, on dort quoi. C'est là où les gens passent sur le chemin et nous disent vous avez vraiment un beau métier.
Oui, parce que là t'es étendu dans l'herbe. Par contre quand il pleut du coup ça peut être très long.
C'est sous le parapluie et c'est très long. C'est très très long. Ouais, c'est très très long. Et sachant que quand il pleut les brebis sont pas calmes, donc il faut arriver à tenir tout le monde au même endroit et des fois elle redémarre quand t'as commencé à manger. Bon, c'est, voilà. C'est des fois toi qui es sur le dos de la petite brebis chiante qui a tendance à toujours partir avant les autres. Généralement, j'ai commencé à manger ma boîte de macro et puis elle entraîne tout le troupeau, quoi. Donc on a les chiens qui les tiennent un peu à ce moment-là, mais c'est pas toujours évident en fonction de leurs habitudes.
T'as combien de chiens avec toi ?
J'ai deux chiens. Deux chiens, j'en ai jusqu'à trois.
Qui sont les tiens ?
Qui sont les miens que j'ai dressés, effectivement, ouais, qu'on a toute l'année avec moi. Et quand je garde pas comme aujourd'hui, du coup on les dresse et ils sont faits pour ça, quoi. Donc ils passent, c'est un peu les CRS de la montagne, quoi. C'est-à-dire que nous on est une sorte de médiateur, et en cas de problème on a les forces spéciales qui sont à côté, quoi.
Et c'est des chiens de berger ?
C'est chiens de berger, ouais. J'ai deux bergers basques. C'est une race du massif de Gorbeia en Egoalde, donc Pays Basque Sud, donc situé en Espagne. Pas Pays Basque espagnol, mais... Et du coup, c'est une souche qui est originaire là-bas, qui est très très ancienne. On a retrouvé des ossements au néolithique, qui a tendance à disparaître, malheureusement. Donc il y a un projet de sauvegarde de cette race-là, en Egoalde, et du coup moi tout le monde est parti sur du border collie. Pour moi c'est moins adapté à la montagne, mais c'est des très très bons chiens. J'ai préféré travailler avec ces chiens là et puis on choisit les tempéraments des chiens en fonction de nos tempéraments aussi à nous, et voilà, moi ça me convient très très bien. Et du coup c'est des chiens qu'on dresse et qu'on a effectivement tout le temps avec nous, et qui sont là pour quand il y a un pépin, rappeler à l'ordre. Généralement, en fin de saison, quand on prononce le prénom du chien, les brebis font vite demi-tour, avant que le chien soit parti.
Ah, donc elles ont entendu l'appel au chien. Ouais, ça veut dire qu'après, il y a répercussion. Okay.
Et elles apprennent, ouais. Généralement, c'est assez impressionnant. Ouais. Et du coup, ils passent la journée avec moi, c'est les deux compagnons. C'est les principaux interlocuteurs au quotidien, ouais. On va dire.
Vas-y.
On y fait hyper gaffe, parce que sans eux, on ne pourrait pas travailler, quoi.
Et sur les espaces où tu vas, est-ce que c'est quelque chose que tu as prédélimité avant ? C'est la commune qui te dit il faut que tu ailles là ? Comment est-ce que ça se passe au niveau de la définition des espaces de pâturage ?
Alors chaque éleveur ou groupement pastoraux a un espace délimité. Avant que je monte, hein, c'est structuré comme ça. Ils ont tant d'espaces, ça va jusqu'à ses limites. Ils peuvent aller là à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et puis après... tout le travail du berger, ça va être de gérer le pâturage, donc le niveau de pâturage, et puis ce niveau-là tout au long de la saison, et en évoluant en gros du bas vers le haut et du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on part en bas au mois de juin, on monte sur les derniers quartiers d'août, autour du 15 août, parce que c'est des quartiers très très hauts, où l'herbe ne pousse que sur 3 semaines. Donc en fait, on a un court laps de temps pour aller la manger. Elle est très riche. C'est avec là où on fait vraiment du bon travail. Mais c'est un espace très court. Il faut y aller une période très courte, très définie, ni trop tôt ni trop tard. Et puis après, on redescend au fur et à mesure, d'étage en étage, en fonction de l'arrivée de la neige, du froid et de la repousse de l'herbe sur la partie inférieure de l'alpage. Ça, c'est souvent un fonctionnement pour les Alpes du Nord, donc Savoie, Haute-Savoie, Isère. Je pense un peu la frontière un peu en dessous, sur le Trièves. Et après, toute la partie Alpes du Sud, on est sur un milieu plutôt méditerranéen comme climat, même en montagne. Donc en fait, on ne fait que monter. On monte le plus haut possible, jusqu'en haut, où on finit la saison. Et après, une fois qu'on redescend, une bonne fois pour toutes, quoi. On redescend chez l'éleveur. Et donc en fait, notre boulot, c'est de regarder les typologies de pelouses qu'on peut avoir, ce qui est plus ou moins apprécié par les brebis, ce qui va être bon ou moins bon pour elles. Et donc, on essaie d'établir un équilibre, ouais, dans ces espaces.
Donc du coup, pendant que tu es en pâture, tu as aussi pas mal de recherches et d'études du secteur dans lequel tu évolues. Tu n'es pas sur, ouais, un circuit préétabli tout le temps. C'est vraiment progressif et changeant, quoi.
On va dire qu'il y a une grande tendance dans la gestion, parce que chaque montagne a sa logique, mais que cette grande tendance peut être bousculée par les événements climatiques de la saison. C'est-à-dire que on peut avoir une saison où il a beaucoup plu, il y a eu de la neige très tard, le démarrage de l'herbe est plutôt tardif, une saison où c'est plutôt précoce, il faut vite monter parce qu'il y a tout qui pousse en même temps. Du coup, il faut vite passer partout parce que sinon on se fait déborder par l'herbe. En fait, l'idée, c'est de toujours être à l'équilibre. Donc, jamais manquer d'herbe, jamais en avoir trop. Donc, c'est l'objectif de nos journées.
Ça stresse.
Donc, on a beaucoup... Ouais, c'est stressant, ouais. C'est stressant parce que tu sais que si tu rates une fenêtre, tu peux rater une opportunité d'avoir un troupeau en bon état à la fin de la saison, quoi. En bon état corporel, je veux dire. En pleine santé, quoi. Donc, c'est un métier où on prend des décisions, à peu près 30 décisions à la minute, quoi. On s'en rend pas compte comme ça, mais on prend 30 décisions à la minute toute la journée. Et souvent, c'est remis en question le lendemain.
Oui, tu veux dire que c'est pas parce que tu as pris une décision le jour J que le lendemain, c'est pas elle sera durable.
Faudra pas en changer, ouais. Faudra peut-être changer de stratégie, effectivement.
Ouais. Ouais. Et c'est, du coup, tu dirais que c'est un environnement mental au niveau justement de ce stress qui en fait un métier stressant, de ce qu'on pourrait définir un métier stressant, ou est-ce que, pas forcément, parce que j'imagine que tu as ce stress-là, mais tu as peut-être aussi de la pression. Quand je dis ça, je l'imagine en fait, parce que je me dis, t'es tout seul sur la montagne, tu pars pendant plusieurs semaines, voire des mois, dans des environnements un peu hostiles, avec quelques centaines de bêtes, milliers. Tu vois, il y a un truc qui peut paraître effrayant, qui relève de la pression.
T'es tout seul. Tu peux compter que sur toi-même. Donc, quand il y a une galère, alors, t'es tout seul sur le moment où ça t'arrive. La réponse à cette galère, elle est d'abord par toi-même. Ensuite, les éleveurs, quand ils sont pas trop loin. Ou les copains, ou les amis des éleveurs qui sont dans le village, ou les éleveurs du voisin qui viennent t'aider, quoi. Il y a une solidarité quand même. Mais la réponse première, c'est d'abord soi-même. Comment je vais dealer le problème auquel je fais face, comment je vais le gérer sans me mettre en danger, parce que la priorité, c'est de rester sain et sauf quand même, parce que ça peut vite être dangereux en montagne. Ouais. Et du coup, il y a une forme de stress. Je pense qu'on l'a beaucoup au début, quand on commence. Je pense qu'on l'oublie avec les années. La famille est là pour, et nos proches sont là pour nous le rappeler, parce qu'on se fait vite absorber en fait par la montagne, et on en oublie vite ses dangers. C'est-à-dire que par habitude, par évolution dans ces espaces, voilà, je me souviens encore de l'équipe de tournage là, du documentaire qui est sorti sur France 3, où ils ont passé quand même quelques saisons avec moi. Et j'aurais dit, bon, vous pouvez me suivre, de toute façon, il n'y a pas de souci, bon, il y a un endroit, c'est un peu... Bon, ça devrait aller, quoi. Et en fait, on est arrivé sur l'endroit où moi, je fais que sauter dans tous les sens comme un chamois, et le caméraman me dit, ah non, mais là, je ne peux pas passer là, je ne passe pas. Je dis pourquoi? Il me dit mais regarde en bas. J'avais jamais regardé en bas en fait. Effectivement, il y avait 300 mètres de vide. C'était les rochers et l'espace pour passer. Il y avait deux pieds quoi. Donc l'habitude quoi. L'habitude. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de pression au début qu'on oublie un peu à la fin. Je pense qu'on essaye toujours de trouver la juste mesure faire attention et faire trop attention et pas être tout seul avec soi-même, parce que je pense que c'est là où arrivent les accidents. Ouais. Mais il y a une forme de pression de toute façon, parce que quand il arrive quelque chose avec un animal, c'est vite compliqué. Quand on perd un lot, par exemple, c'est-à-dire qu'on rentre
qu'est-ce
à la cabane,
on sait qu'il est... Tu perds un lot.
C'est assez stressant parce qu'on s'en rend compte. Ou alors, on ne peut pas compter comme ça 2000 brebis. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait une fois dans la semaine. Mais, oui. Parce que c'est un chantier, ça nous prend du temps et on le fait une fois par semaine, mais on ne peut pas le faire tous les jours. On sait qu'il nous manque un lot, il y a une cloche qu'on n'entend plus. Donc, généralement, quand il y a une cloche qu'on n'entend plus, il y a une centaine de brebis avec. On refait dans sa tête le trajet de la journée, on essaie de se dire à quel moment ça peut se passer. Et puis, on relativise parce que le lendemain, il faudra repasser et puis on retrouve le lot, quoi, hein, souvent. Mais ça arrive de perdre des lots pendant quelques jours. Quoi.
Tu dors pas
la nuit. Ça arrive, oui. Ouais, t'es un peu stressé, ouais. Tu te dis, bon. Ouais. Puis avec l'âge, avec l'expérience, de toute façon, elles vont soit revenir, soit elles vont se ramasser, on va les retrouver. Le plus stressant, c'est qu'on les laisse et on sait qu'il y a de la prédation autour et là ça peut être vite compliqué, ouais. Je crois que la partie la plus stressante, c'est plutôt la prédation et l'impact que ça peut avoir sur nous que le reste.
Donc le loup, la prédation. T'as d'autres prédateurs que le loup? Les renards? Non, peut-être pas, c'est un peu...
Non, très peu les renards. En tout cas, on a les chiens de protection, donc généralement, les renards se tiennent à distance. L'ours pour la partie pyrénéenne.
L'ours,
qui n'est pas évident, t'as dilé. Voilà, les deux principaux, quoi.
Ouais. Et c'est... ça arrive souvent?
On vit avec, maintenant. C'est du quotidien.
D'où ce parc électrique à ta cabane?
En fait, on pense toujours que le parc électrique est fait pour éviter que les loups rentrent dedans, mais bon, le parc électrique, il fait 1,05 m, la détente sèche d'un loup, c'est plus de 2 mètres.
Oui,
mon chien de conduite saute le parc électrique, mon petit berger basque, donc il n'y a aucun souci pour que le loup saute. Non, là, c'est surtout pour maintenir les brebis au même endroit, en fait, l'électricité et la clôture. Donc ça nous permet de... Ça permet aux chiens de protection de travailler, c'est-à-dire de maintenir la prédation à distance quand elle s'approche des filets. Et puis à nous, ça nous permet de temporiser, de pouvoir réagir et sortir, quoi, s'il y a besoin.
Tu sors s'il y a un ours ?
J'ai eu une fois une alerte par un jour de brouillard où vraiment on rentrait à la cabane, j'avais le troupeau qui s'est tiré dans les Pyrénées, troupeau laitier, on fabriquait de l'eau Soirati. Et on savait que c'était un point de passage de Sorita avec les oursons. On n'a rien vu, mes chiens ont grogné comme jamais. J'ai un chien en qui j'ai une confiance aveugle parce que c'est toujours lui qui m'a prévenu quand il y avait du danger. Avant les patous, j'avais un stagiaire à l'époque. J'ai dit, tu te mets à côté de moi, on rassemble les brebis et on va tout droit. On trace tout droit et on court tout droit et on avance. Quoi. On pousse les brebis et si on voit quelque chose arriver, on court à la cabane, quoi. Je veux dire, on deal même pas, on pourra rien faire. Donc voilà, j'ai une amie qui s'est retrouvée avec cette fameuse ours-là sur un grand plateau. Elle était assise avec ses chiens, les brebis mangeaient sur un grand plateau quand Sorita a surgi du bois et rentré au milieu du troupeau avec les oursons à 150 mètres d'elle. Et quand elle m'a raconté ça, j'ai dit, mais t'as pas pris de photo? Elle m'a dit, c'est absolument pas le premier réflexe que j'ai eu. J'ai dit, tu m'étonnes. Elle a fait taire son chien, elle lui a tenu le museau et puis elle s'est carapatée.
Parce qu'il est agressif sur l'homme,
Il y a de plus en plus de cas où effectivement des ours montrent des signes d'agressivité vers les bergers. Donc des bergers qui ont été poursuivis jusque dans leur cabane. Avec des ours qui traînent autour.
C'est une chasse, quoi. Okay.
Donc, c'est plus ou moins une chasse. Et puis, la situation la plus dangereuse, hein, c'est clairement la présence d'oursons, quoi.
Oui, parce que si
donc,
tu
les oursons, la mère. Nous, les chiens, on a nos chiens, c'est vite compliqué. Ouais. Ouais. Puis on fait pas le poids, quoi. Ça court vite. C'est vraiment le truc le plus stressant.
Oui, je sais bien quoi. Tu parlais de la famille tout à l'heure, qui te faisait relativiser et prendre confiance. Quelle place ta famille, même ton centre amical et tout ça dans ta vie de berger?
C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'est pas là une grosse partie de l'année. Moi, généralement, je suis entre 4 et 10 mois absent de la maison. Donc, j'ai des contrats de 3 mois, je reviens. Après, j'ai des contrats qui sont plus ou moins proches, donc ça me permet de revenir plus facilement. En tout cas, c'est ce que j'essaye de trouver pour l'hiver, l'été aussi maintenant. Mais c'est pas évident. Moi, j'ai la chance d'avoir mes enfants qui montent avec moi depuis qu'ils sont petits. Donc ça, c'est une vraie source de partage familial. C'est génial, quoi. Ouais. Pour deux d'entre eux, ils grandissent. Donc la grande entre dans l'adolescence. Ça commence à être moins fascinant, la montagne. Donc on a planté la graine. On verra. Alors, on va la laisser grandir. Ouais. Ma compagne, c'est pas évident. C'est vrai qu'il faut accepter qu'il y en ait un qui parte, que son boulot ce soit de partir. C'est vraiment compliqué à gérer parce que du coup, tu as ton cocon, tu essayes de refaire du quotidien et puis tu sais que dans 2 mois, il faudra le lâcher. Donc c'est une gymnastique pas évidente et en même temps pour moi, c'est un port d'attache, quoi. Si j'avais pas ça... ça serait très compliqué d'évoluer dans ce métier sur du long terme. Quoi.
Ouais. J'ai regardé il n'y a pas longtemps un témoignage de l'aventurier Loury, je ne sais pas si tu le connais, expliquait la place de sa famille justement et comment est-ce qu'elle comprenait le fait qu'il s'en aille pendant plusieurs mois, semaines, surtout dans des conditions extrêmes où il y a quand même un enjeu vital qui est très présent. Mais une volonté de sa part de partir, mettre sa vie en danger. Donc, tu vois, le truc encore plus fort de « t'es prêt à nous quitter », quoi. Ce que tu me disais fait écho, que s'il partait pas, il serait pas un meilleur père pour autant.
J'adore Loury parce que je le suis depuis pas longtemps et puis il est au Pays Basque aussi. Il a une forme d'engagement qui est absolument, pour moi, c'est hallucinant. Je pense que c'est encore une autre étape, mais que je serais peut-être parfois pas loin de franchir si j'étais seul. Mais non, en fait, sans la famille, même pour moi, sans la famille, c'est pas possible, quoi, de s'épanouir là-dedans. C'est assez antinomique, hein. Il y a ce besoin de partir. Il faut pour la famille, il faut qu'elle accepte que t'as besoin de ça. T'as besoin de t'échapper. C'est pas pour autant que tu les aimes pas et que t'as pas besoin d'être avec eux, mais t'as besoin de ça. Et c'est un truc que j'ai mis du temps à dealer avec. C'était ma principale source de travail personnel. Hein, c'est quel père je vais être pour mes enfants. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que je pense être un meilleur père aujourd'hui pour eux, en les voyant pas forcément tout le temps, mais je pense être un meilleur père dans ce que je leur transmets en étant là-haut et en vivant avec eux au quotidien là-haut. Et ma fille revient de ma grande fille revient d'un voyage scolaire à Barcelone. Et quand j'ai vu son sourire sur le visage, je me suis dit que c'était bon, quoi. Le principe même, le concept du voyage de découverte, il est établi, il est ancré. Et c'est quelque chose qu'elle va pouvoir pleinement découvrir parce que c'est une graine qui est plantée, quoi. Mais effectivement, ouais, c'est pas évident de se dire que tu peux être un excellent, en tout cas un bon père. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, tu peux être... papa à part entière, tout en ayant cette vie, quoi. Et au-delà du papa, un conjoint. Parce que la pression sociale qu'on peut avoir sur la forme que doit avoir l'espace conjugal, voilà, c'est la première question des gens, c'est comment vous faites, c'est dur, on en chie. clairement. On en chie parce que c'est pas facile, mais en même temps, on est deux piliers l'un pour l'autre dans nos vies respectives, quoi.
Ouais. Et puis tu te recrées ton schéma à toi, quoi. Celui qui fait que les deux piliers sont épanouis chacun de leur côté, en dehors de ce carcan social.
Mais... Tout à fait.
Et pour les potes, tu le disais.
Bah, les potes, c'est pas facile parce que ils veulent tous, ils aimeraient tous monter, mais ils ont tous des vies qui les empêchent d'avoir ce, ce moment. Enfin, qui les empêchent. En tout cas, c'est plus compliqué pour eux.
T'arrives à garder le lien.
On garde le lien, ouais, on garde le lien. Mais il y a forcément des choses. On rate 10 milliards de trucs. On rate des anniversaires. J'ai raté les 10 ans de mariage de mon meilleur ami. C'est des choses qui sont très dures à vivre, quoi. C'est à chaque fois des petites cicatrices. Mais bon, ça fait partie de notre vie. On essaye de dealer avec. Et je pense que nos amis conjuguent avec aussi, quoi.
Je te propose de passer au jeu suivant, qui consiste à dépeindre un peu les scénarios dark side. Je l'appelle le dark side, mais en fait... L'idée, c'est de voir si je peux, sans connaître ton métier, deviner si certaines tâches, si telle ou telle tâche de ton activité fait plutôt partie de celles qui te plaisent ou celles qui te cassent clairement les robignoles. Mais sans le connaître, tu vois, donc d'aller voir, tester si je peux avoir des préjugés autant idéalisateurs que dramatisateurs. Du coup, pour ça, je te propose de me lister 3-4 missions que tu as dans une journée. Et moi, je dois deviner si tu aimes les faire ou si ça t'emmerde.
Ok. Par quoi peut-on commencer ? Trier les animaux avec les éleveurs dans le milieu de la saison, pour en faire redescendre certains.
Ah, j'imagine que c'est pas la même tâche en plus sur 2000 brebis ou sur ça. moi, je dirais que t'aimes pas trop. Je te dis ça. T'aimes pas trop ?
Non.
Bah, ce qui m'a amené à dire ça, c'est le côté où bah, t'abandonnes une partie d'équipe, quoi.
Il y a deux choses. T'abandonnes une partie de l'équipe, effectivement. Elle redescend pour plusieurs raisons. Elles peuvent être distinctes en fonction des saisons. Et puis c'est une journée où tout est chamboulé, en fait. Toutes tes habitudes. Les éleveurs ne s'en rendent pas forcément compte, d'ailleurs, que c'est une journée compliquée pour les bergers.
Parce que tout l'équilibre que tu as établi depuis le début de la saison...
C'est ça. Il va être chambardé sur une demi-journée, quoi. Parler avec des randonneurs qui ont les chiens pas attachés.
Je crois que tu m'as envoyé quelques signaux. Bon, c'est... Alors, j'imagine que parler avec des randonneurs, en vrai, ça peut être sympa. Surtout quand t'es seul en montagne, avoir un contact humain, ça peut être sympa. Mais le chien pas attaché, c'est impardonnable.
Effectivement, ouais. C'est pas toujours cool. Ça dépend dans le contexte dans lequel ça arrive. Si c'est nous qui les découvrons en premier, donc ça nous permet de... Et puis de la distance à laquelle on doit les interpeller aussi, parce que souvent, c'est loin. Et on sait que pour nos chiens de protection, c'est pas loin. C'est-à-dire qu'ils vont courir dessus assez vite. Il peut y avoir des dégâts. En fonction des personnes aussi, c'est un moment agréable ou pas. Donc ça, c'est cool. Mais pour rebondir sur ce que tu disais auparavant, ça peut être cool de parler avec des gens. Effectivement, c'est cool que si nous, en tant que berger, on l'a choisi. Et souvent, les randonneurs, quand ils nous rencontrent en montagne, au détour d'un chemin, ou qu'ils arrivent à la cabane, etc., en fait, se posent pas cette question-là. C'est-à-dire qu'on fait partie de la carte postale et on est obligé de répondre aux questions. Mais des fois, c'est pas un moment où on a envie de répondre. Des fois, il n'y a pas le bonjour non plus. Donc, c'est pas toujours évident, mais ça me permet de faire passer ce message, c'est que les codes sociaux fonctionnent aussi, là-haut, chez nous. C'est-à-dire que bonjour, merci, au revoir, est-ce que vous êtes disponible pour discuter ou pas ? Ça marche bien.
Ouais. Oui, puis comme tu dis, là-haut, chez vous, quand tu es en saison, là, chez toi, c'est la montagne. Donc, en fait, les randonneurs sont chez toi.
Exactement. Ils sont chez moi parce que c'est un espace pâturé. Souvent, les éleveurs payent d'ailleurs hein, pour pâturer ces espaces. Donc, effectivement, ouais, ils sont chez moi. Et donc, ça
pourrait paraître la moindre des choses de toquer avant de rentrer, quoi.
Les offices de tourisme ont beaucoup, la montagne, ça vous gagne, les grands espaces, ça appartient à tout le monde. Bah, non, ça appartient pas à tout le monde. Mais par contre, on est autorisé à en faire disposer les uns et les autres, selon les règles.
Tu penses que c'est une question de propriété ?
Je pense que c'est une question de savoir-vivre, tout simplement. Disposer du sel sur les cailloux, à un endroit précis dans la montagne, pour le troupeau.
Le sel, juste pour que je le sache, c'est pour l'apport en muscle, ouais. Non ? C'est le truc comme ça.
Ils ont besoin de... Pour la rumination, en fait, c'est un élément essentiel pour les brebis. Pour tous les petits ruminants, en fait, ils en ont besoin.
Ok.
Donc, sachant qu'il faut 100 grammes de sel par brebis, à peu près. Ça donne une idée.
Oh, ça doit être super dur. Là,
100 okay. grammes de sel par jour, par brebis.
Okay. Alors là, j'ai vu au bluff. Je vais dire que tu n'aimes pas ça. Je ne sais pas. Ça me paraît très rébarbatif comme tâche. Mais ça se trouve, tu aimes bien ça.
En fait, j'adore. Ouais. C'est le meilleur moment de la journée. Ouais. Okay. C'est le meilleur moment de la journée parce que c'est le moment où la journée se termine. Les brebis sont calmes et le sel, ça permet de créer du lien avec elles. En fait, on passe au milieu, on leur donne. Alors, ça se bouscule un peu beaucoup. On a du poids dans les bras et c'est pas toujours évident, mais c'est un moment où on peut observer tout le monde. Et c'est un moment où on pose tout, quoi. On pose le sel, mais on pose la journée aussi. Ouais. Ça nous permet d'observer toutes les brebis et de voir si tout va bien, si le boulot de la journée a été bien fait. Et c'est cool. C'est vraiment un moment cool.
Cool, chouette. Elles aiment le sel.
Ah, elles sont folles, elles en ont besoin. Ouais. Mmh. Okay. D'ailleurs, les places de sel qu'on met, souvent les chamois viennent aussi derrière pour lécher les pieds. Parce qu'ils en ont besoin aussi.
Mmh. Ouais. J'ai lu dans un article de Social Terre, là, il n'y a pas longtemps, que la durée moyenne d'exercice d'un berger tourne autour de 5 ans. 3 ans pour les femmes, 7 ans pour les hommes.
Du coup, c'est la moyenne, c'est un turnover, effectivement.
Ouais, c'est ça. Du coup, je me suis dit qu'en fait, beaucoup de bergers sont débutants. Ou avec du moins pas beaucoup d'expérience. Et du coup, ça m'a fait rattacher cette info à la question de la rémunération, où je me suis dit, est-ce que ça vient affecter les salaires et les conditions de la profession ? Parce que je dis ça parce que quand on est débutant, enfin, moi je me rappelle mes premiers jobs, mes premiers contrats, quand j'étais devant, j'étais carrément naïve, quoi. J'avais pas l'expérience et j'étais prête à accepter peut-être des conditions moins bonnes que ce que j'aurais dû accepter ou des salaires moins bons que ce que je devais accepter, histoire de combler peut-être un petit sentiment d'imposteur ou... On traverse tous un peu ça d'ailleurs à l'arrivée dans un métier, mais est-ce que ça se ressent dans la profession ?
C'est... Je crois que quand on a dit ça, on a tout dit, on a un énorme enjeu... dans la profession de berger, c'est un, la professionnalisation, encore un mot compte triple, c'est-à-dire qu'on a des écoles de berger, mais il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut qu'il y ait de plus en plus de monde, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la saisonnalité fait que c'est très très compliqué, on bosse quand même légalement, normalement 6 jours sur 7, mais globalement 7 sur 7. 44 heures, c'est le max qu'on puisse nous mettre sur un contrat. On en fait minimum le double, si c'est pas le triple en haute saison. Ça, il faut le savoir. Moi, j'ai fait le compte hein, sur une saison de garde à peu près classique, 4 mois. Je fais l'équivalent d'un 35 heures pendant 8 mois. Quoi. Et je compte pas dedans, je mets pas les week-ends compte double et les astreintes de nuit à cause de la prédation. Donc, c'est un métier qu'il faut absolument pas. Porter le salaire autant que tu passes, parce que sinon, je pense qu'on est à 3 euros de l'heure, quoi. C'est un métier qui souffre des dernières réformes des allocations au chômage. Et je pense que les prochaines à venir vont finir par faire péricliter ce métier. Parce qu'en fait, quand vous travaillez, quand on fait une saison de printemps pendant... C'est-à-dire qu'on travaille 2 mois, je fais fin avril jusqu'à mi-juin. Après mi-juin, je pars en montagne jusqu'à début novembre. Donc, j'ai travaillé 6 mois à raison de 80 à 100 heures par semaine. Je peux clairement pas enchaîner quoi derrière. Et on est beaucoup de bergers à fatiguer, à avoir besoin de 2 ou 3 mois pour souffler. Donc, on a une forme d'intermittence qui n'est pas du tout reconnue, donc on s'appuie sur les allocations chômage, mais elles ont tendance à diminuer de plus en plus pour nous. Donc c'est vraiment très très compliqué, ce qui fait que instabilité financière, pas d'accès à l'emprunt. Avoir un loyer quand on n'est pas en couple, c'est très compliqué. Quand on est en couple, c'est pas forcément plus évident non plus, parce qu'on a des besoins que pour 3 ou 4 mois de l'année. Donc ça, c'est pas évident, ce qui explique le turnover, effectivement. Il y a des syndicats qui existent, qui se sont montés là très récemment. On a des associations de bergers et de bergères, notamment dans les Alpes du Sud, dans une partie des Pyrénées aussi. Donc ça, ce sont des appuis importants pour ceux qui démarrent et qui débutent. Il y a énormément de choses à voir sur les contrats. Il faut voir la question des logements aussi, qui est une vraie problématique. On commence à rénover les cabanes de plus en plus, mais il y a des endroits où ça reste très précaire. Donc,
parce qu'elles sont vétustes,
parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement en eau, parfois pas l'électricité, parce que c'est une cabane temporaire, on n'y est qu'un mois et que du coup, bah, on va pas faire les investissements parce que ça coûte cher. Donc, on a un lit, un toit et le tuyau d'eau dehors, quoi. Donc, c'est pas forcément très cool. Ça va quand c'est temporaire, je veux dire, on peut l'accepter sur une saison, mais globalement, quand c'est 4 mois comme ça, c'est compliqué. On monte de plus en plus avec nos familles parce qu'on a besoin d'être avec notre famille en haut maintenant. On a plus cette image de berger solitaire, seul, le dernier de la famille qui n'a pas de femme, pas d'enfant, le sacrifier, quoi. Du coup, effectivement, il faut faire attention au contrat, à ce qui est bien stipulé dedans, aux attentes. Ça reste un milieu qui subit l'arrivée du salariat, donc qui n'a pas forcément les bonnes clés, qui ne sait pas faire. Quand je parlais de culture au tout début de l'interview avec une population qui arrive plus ou moins des villes, c'est clairement un schisme pour se comprendre, parce que parler d'argent, parler de fonctionnement, de management, tout n'est pas forcément très clair dans la tête des groupements pastoraux, des éleveurs, donc il faut faire attention.
Et puis, du coup, les contrats, c'est du CDD ?
Ce sont des CDD saisonniers, ouais, pour la plupart du temps.
Okay. Et est-ce que il y a peut-être des évolutions sur des bergers qui se rassemblent pour créer ce qu'on pourrait appeler des scopes ?
Non, aujourd'hui.
Les salariés seraient salariés, les bergers seraient salariés de cette scope, mais qu'ils co-géreraient aussi en tant que membre de cette scope, et puis après d'aller vendre leur travail. Il n'y a pas des projets un peu comme ça, coopératifs, qui naissent ?
On est quand même très individualiste. On a un métier où on est malgré tout 80% seul. On est tout le temps en train de bouger. Et je vois pour les associations de bergers et de bergères ou les syndicats, c'est extrêmement compliqué de se réunir. En fait, notre nomadisme fait que c'est très compliqué. Même avec les outils qu'on peut avoir, parce que des fois, on n'a pas de réseau, des fois, ça reste pas évident en termes d'investissement. Je veux dire, on peut faire les choses de façon numérique, mais ça reste de l'humain, on a besoin de se voir, quoi. Donc, c'est pas évident. Je sais qu'il y a une réflexion qui est menée en ce moment sur le métier de berger, sur sa professionnalisation. Ça va prendre beaucoup de temps, je pense.
Ça gagne combien en moyenne un berger ?
Tout dépend de l'année, mais tout le monde te dira ça. Mais c'est en gros l'hiver, on est entre les contrats corrects entre 1600 et 1900 euros pour la partie hivernale. L'été, ça peut monter jusqu'à 2005, 2006, un peu plus des fois. L'été, on est entre 1800 et 2700 euros. Il y a une énorme amplitude, quoi.
Ok. Ce qui fait la différence, c'est la taille du troupeau, le massif dans lequel tu vas, ou choses comme ça, ou...
Non, pas forcément. Ce qui fait la différence, c'est la volonté des éleveurs à payer correctement leurs bergers, quoi. Ouais. Ou leur capacité financière à les payer correctement, parce qu'ils ont une enveloppe. Souvent, nos contrats, en fait, sont liés souvent à la politique de prédation et aux moyens de protection qu'on met en place. Les bergers en font partie. Donc, nos salaires sont pris en charge à 80% dans les cercles 1. Donc, c'est à peu près la globalité des massifs aujourd'hui. Et à 100% dans les parcs naturels nationaux, quoi, type Mercantour, Vanoise, etc. Donc, mais c'est une enveloppe qu'ils ont sur l'année. Il faut qu'ils dealent avec, quoi. Donc, en fonction de leur gestion de troupeaux, des besoins qu'ils ont en termes de garde tout au long de l'année. L'enveloppe est plus ou moins large ou pas, quoi.
Et ils te prennent en compte les déplacements entre les massifs ou les...
Il y a des contrats, en fait, par département. Il y a des conventions qui ont été établies et qui ont été annexées aux conventions agricoles. Les Hautes-Alpes, c'est de mémoire, hein, c'est la meilleure convention collective qu'il puisse y avoir pour les bergers et les bergères, qui mériterait d'être étendue sur tout le territoire. Mais ce n'est pas le cas encore. Des infos que j'ai, c'est que le syndicat des bergers, des gardiens de troupeaux, est en train de dealer avec la FNSEA, hein, qui est le premier syndicat majoritaire des éleveurs, pour améliorer nos conditions en termes de salaire, d'équipement, parce qu'en fait, on parle très peu de nos équipements, mais
oui,
on
vrai,
évolue en milieu montagnard. Moi, je bousille 2 paires de chaussures par an, les paires de chaussures, c'est 350 €, quoi. Donc, c'est hors de prix. Le matériel de montagne, de protection, de la pluie et tout ça, c'est hors de prix. Nos pantalons, c'est hors de prix. Je veux dire, si on veut vraiment des choses qui tiennent sur au moins 2 ans ou la saison, on est obligé d'acheter du matériel très technique. Puis moi, ayant fait de la montagne auparavant en dehors, j'y tiens, quoi. Que ce soit du matos technique et pour la montagne et pour l'élevage, parce qu'il faut que ça fasse les deux, quoi.
Ouais.
Donc tout ça, ça coûte, ça a un coût, ouais. Et nos chiens, nous, on parle très peu de nos chiens de conduite, mais on les a toute l'année. Nos chiens de conduite, c'est des frais vétérinaires, c'est des croquettes à notre charge, c'est l'éducation, le dressage à notre charge, c'est voilà. Et sans chien, on garde pas, quoi.
On se rend pas compte de tout. Tu sais, on se dit partir en montagne, c'est marcher, puis t'as besoin de rien, mais en fait, c'est pas ça du tout.
Pas tout à fait ça. Ouais.
Non, ouais.
Et puis quand tu pars en montagne, bon, moi je choisis toujours des montagnes qui ont un accès 4x4 parce que j'ai des enfants. Mais il y a des montagnes où il n'y a pas d'accès 4x4, c'est 4 heures de marche. Donc c'est un héliportage en début de saison. Donc il faut payer toute la bouffe pour la saison, c'est-à-dire pour les 4 mois. Donc c'est un gros budget, quoi, dès le début. Il faut le sortir. Donc on doit piloter notre argent en fonction de tout ça.
Ouais. Je pense profondément que notre vie pro, elle joue un rôle dans la manière dont la société, elle évolue. Et donc, elle se transforme. Parce qu'en fonction de la nature de ton boulot, puis de la manière dont tu l'exerces, tu vas participer à ton échelle à transformer la société dans un sens ou dans un autre. Si on reprend les objectifs France 2030, voire on pense même plus loin, il y a une chose qu'on sait et qui est claire depuis quelques dizaines de voir si on veut vraiment être honnête, trentaine d'années, c'est qu'on doit mettre en place urgemment une transition écologique. Toi, à l'échelle de ton travail, je ne parle pas forcément du perso, même si pour toi, ça a un sens, tu peux l'inclure, mais moi, je me focus vraiment sur l'aspect professionnel. Est-ce que tu penses que ça peut avoir... les bergers peuvent avoir un rôle particulier dans cette transition écologique? Et si oui, quel est-il ?
Bah, je pense que le rôle aujourd'hui, il est essentiel. Au-delà des bergers, c'est la pratique pastorale, en fait. C'est-à-dire cette idée selon laquelle on va aller chercher la ressource naturelle autour de l'endroit où l'on est, pour son troupeau, pour le nourrir, pour en sortir des produits de qualité, parce qu'on a très peu parlé de produits depuis tout à l'heure, mais faut pas oublier qu'on est là pour produire de la laine, de la viande, du lait, du cuir. C'est hyper important et c'est rattaché à un territoire. Je sors de 10 jours avec une vingtaine de nationalités et on a parlé des country meats. Et le terroir, c'est vraiment un truc français. Il n'y a pas d'autre traduction, en fait, dans les autres langues. Donc, c'est le rattachement d'un berger, d'un éleveur, d'un paysan à l'endroit où il est, quoi. Et ce qu'on va en faire ressortir. On va exprimer la valeur du sol sur lequel on fait pousser ou produire des choses. Moi, je fais pousser l'herbe. Et avec cette herbe-là, c'est-à-dire que dans des espaces où on ne pourrait rien produire, tellement hostile, on pourrait ni faire de blé, ni de patates, ni rien du tout. On arrive à produire une alimentation saine, de qualité, avec les troupeaux qui y pâturent. que ce soit du lait, du fromage, de la viande. Je pense que le pastoralisme, c'est un enjeu crucial, cette pratique-là, pour les 10-20 prochaines années. On en parle en France, mais dans le monde, c'est une pratique qui est en danger et qui est une vraie rétro-innovation, quoi. C'est-à-dire qu'on fait bouger les troupeaux en fonction de là où est la ressource et on améliore la ressource à chaque fois qu'on y passe. Parce que on fait le travail, en gros, de ce que faisaient les troupeaux d'herbivores sauvages auparavant, quoi, avant que l'homme soit présent sur la planète. Donc, est-ce qu'il y a un deal entre une nature sauvage dans laquelle on va aller réintroduire des bisons dans tous les sens, parce que c'est un peu la lubie, hein, de ce monde complètement dichotomique entre urbain, sauvage, et l'espace tampon que nous, on pilote, il a tendance à petisser. Il y a des scientifiques, hein, je pense à mon ami Pablo Manzano, qui est écologue, et ils ont travaillé pendant des années pour voir si l'apport d'un troupeau sauvage d'herbivores sur un même espace comparé à un troupeau domestique était meilleur. C'est la même chose. C'est la même chose. On a le même impact. Donc, est-ce qu'il vaut mieux... À mon avis, il vaut mieux dealer avec une espèce de mosaïque de paysages où on a certainement des parties non anthropisées et puis des parties anthropisées avec cette forme d'élevage parce qu'elle est saine pour la planète, pour l'environnement, pour notre santé et puis pour les liens culturels qui se créent avec ça. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que les nomades, avant, quand il y avait vraiment une pratique très nomade du pastoralisme, c'était la diffusion de la culture, quoi. C'était le TikTok du passé, quoi. Donc, je crois que c'est hyper important de garder cette forme parce qu'elle reconnecte les gens d'un point A et un point B, et elle va à l'encontre de ce que la société est en train de faire, c'est-à-dire annihiler la notion de temps. C'est-à-dire que aujourd'hui tout doit aller vite. Et ce qui qualifie le temps, c'est le temps qu'on met pour aller d'un point A à un point B. Et les bergers ont encore cette notion-là. Donc tant que ça ne va pas trop vite, on garde de la hauteur. On garde de la hauteur. Et donc sur l'aspect environnemental, je pense que de toute façon, ça va être une réponse au changement climatique qui est en train de s'opérer sur nos territoires. La Méditerranée est en train de se désertifier avec une sécheresse hivernale incroyable, une transformation rapide, donc il va falloir faire évoluer les pratiques d'élevage, ça c'est sûr.
Et du coup, est-ce que tu penses que ça va faire évoluer le métier de berger, par exemple pour un jeune qui se projette dans 20 ans, ça ressemblerait à quoi son métier de berger dans 20 ans?
S'il tient les 20 ans, c'est vrai qu'on est dans une période qui est très très compliquée. Ça fait 8 ans maintenant que je suis berger. Je crois que c'est ma 8e saison. Ouais. Quand j'ai commencé, j'étais très enthousiaste en me disant l'agriculture, ça reste un pilier dans notre pays, ça reste un truc où on ne va pas y toucher, etc. Force est de dire que depuis 2 ans, c'est très compliqué. On touche à notre alimentation, on a du mal à vendre les produits correctement, on a du mal à être rémunéré correctement par la production. J'ai voulu m'installer, moi, pour essayer de me poser à un endroit et d'être un peu plus semi-nomade.
Et d'avoir un troupeau
cheptel, d'avoir mon troupeau à moi, tout en gardant cette forme de pastoralisme et de transhumance. Franchement, je remercie le bon Dieu d'avoir fait capoter ce projet, parce que je crois qu'aujourd'hui, je croulerais sous les dettes, parce que c'est hyper compliqué. Il y a un vrai débat en ce moment dans nos sociétés autour de l'alimentation et de ces enjeux. On essaye de peser tout notre poids, je pense, aujourd'hui, pour faire comprendre que c'est un enjeu prioritaire d'avenir, quoi. Donc j'ai encore cette lueur d'espoir que dans 20 ans, je ne serai pas si vieux, je serai encore berger et je puisse vivre correctement de mon métier.
Ouais.
et qu'un jeune puisse le faire. C'est-à-dire que mon fils aujourd'hui qui aura 11 ans et qui me regarde en me disant bon, je voudrais faire rugby professionnel, mais après peut-être cuisiner, et puis bon, je ferai peut-être berger aussi, mais j'espère qu'il pourra le faire.
Oui, il le fera peut-être d'une manière complètement différente.
Bah, de toute façon, le changement climatique est tellement brutal et radical d'année en année. Et nous, on le voit sincèrement parce que sur un même espace, on voit les changements. Ça va être un sacré challenge. Mais la meilleure des réponses.
Ouais, tu disais tout à l'heure que tu avais commencé ton premier jour de boulot, c'était face au glacier de l'Argentière. Je ne sais pas quand tu repasses devant maintenant, si tu vois ce que tu voyais à l'époque. Hein.
Ça a beaucoup fondu, ouais. Ça a beaucoup fondu. Et en plus, j'ai pu en parler avec Jean-Luc. Ça faisait 13 saisons qu'il était là-haut. Et quand il a commencé, envoyer un Provençal en Haute-Savoie, c'était vraiment comme l'envoyer au bagne, quoi. C'était la Guyane où on envoyait les pierres du pays, parce qu'il pleuvait, il pouvait pleuvoir pendant 2 mois. Donc, pour des gens qui ont l'habitude d'avoir 500 mm de pluie dans l'année, et aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. C'est des endroits où il fait très très chaud, et le changement opère beaucoup plus vite, en plus, qu'ailleurs.
Écoute, on arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce que t'as une personne qui t'inspire dans ton univers professionnel, que ce soit un berger ou que ce soit quelqu'un qui agisse pour la profession, ou même qui tu veux, et que tu souhaiterais nous partager?
J'ai pas une personne en particulier. Je crois que, je sais pas pourquoi, j'ai cette chance de souvent rencontrer des gens fabuleux, qui ont des parcours de vie inspirants. Et je crois que chaque année, j'en rencontre. Et c'est essentiel. Par contre, c'est une personne, c'est sûr, j'en ai beaucoup parlé, c'est Jean-Luc Pitra qui m'a conforté dans l'idée que je pouvais avoir de ce métier, qui à l'époque a accepté que je passe du temps avec lui et d'apprendre. Donc je crois que j'en serais gratifiant. Beaucoup de gratitude, voilà, c'est beaucoup mieux. Beaucoup de gratitude envers lui pour ce qu'il a pu m'offrir comme savoir.
Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui s'intéresse à ce métier-là? Pas un Provençal, du coup.
Accroche-toi. Sois ouais. Fort. Et c'est une question de mental.
Ouais. Mais tu ressors au final plus fort. Enfin, c'est aussi une opportunité de le développer, ce mental.
C'est une leçon de vie, parce que tu vas au... Je pense que chaque saison, je dis, si on m'avait dit que j'irais là, je pense que j'y serais pas allé.
Ouais.
Donc chaque saison, tu repousses certaines limites que tu pensais ne pas franchir. Ouais.
Okay. Donc au final, il y a une part de fierté à la fin de chaque saison qui naît en soi.
Il y a une fierté personnelle parce que personne ne le voit. Donc, il n'y a que toi qui peut te l'attribuer. Et je pense que c'est le principal ancien enseignement, mais c'est ce qu'on manque aussi beaucoup. Je parle souvent d'en bas, quoi. C'est que la première des choses, c'est d'abord s'aimer soi-même et puis s'attribuer ce qu'on doit s'attribuer soi-même avant d'attendre celui des autres. Ouais. Donc là-haut, t'es tout seul, t'as pas le choix, donc tu peux t'attribuer les échecs comme les réussites.
Ouais.
Ça, c'est une vraie chance.
C'est clair. Bah écoute, sur ce bel apprentissage, je te remercie beaucoup pour le temps passé à nous parler de ton univers. C'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses, et j'espère que ceux qui écouteront... aimeront cette belle discussion. En tout cas, c'était très cool de prendre ce temps-là.
Merci à toi. J'avais le temps et puis je vais pouvoir repartir dans les montagnes bientôt.
T'as apprécié parler de ton métier?
Oui, c'est agréable. Hein. C'est agréable d'en parler. De toute façon, j'ai cette chance aussi d'avoir une vie sociale un peu importante en bas où je rencontre plein de gens. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je suis berger. Et les yeux s'ouvrent. Et puis là, on est parti pour 2 heures. Quoi. Mais j'ai apprécié de parler de mon métier en dehors de la problématique du loup et de la prédation, parce que c'est souvent ce à quoi on est rattaché. Et c'est bien plus que ça. Quoi.
Un grand merci, Joseph.
Merci.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, je crois que ça m'aide à être visible si vous notez le podcast 5 sur 5. Après, j'ai franchement pas creusé l'algo. Mais je me dis que si tout le monde met 5 sur 5, ça va juste me faire kiffer. Et c'est le principal. Si vous voulez en savoir plus et m'aider à préparer mes épisodes, rendez-vous sur le compte Instagram de Questuf, questuf.podcast. Allez, zoubis !